Je voudrais ouvrir la parole de Dieu sans tarder. Luc chapitre 6, verset 6. On va lire le récit d'une guérison, mais ça va nous parler sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. Ça va nous interpeller, ça va nous aider. Du moins, je le souhaite. Écoutez ce que le Seigneur veut vous dire. Vous savez ce que disait Jésus ? Qu'est-ce que disait Jésus ? Il a dit beaucoup de choses au sujet de l'écoute. J'attends. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'écoute ? C'est presque ça. Il manque une chose là. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est Jésus qui l'a dit. Vous avez des oreilles ? On a deux. Elles sont petites, grandes, développées, peu développées, peu importe. Il faut bien entendre. Hein ? Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Les vilains. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Cet homme s'est levé et il s'est tenu debout. Alors Jésus va se tourner vers tous ces religieux dans la synagogue et il va leur dire « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal. S'il est permis de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur toute l'assemblée, là, dans la synagogue, il se tourne de nouveau vers l'homme qui s'est levé, qui s'est tenu au debout devant tous ceux qui étaient présents et il va dire, étends ta main droite. Et cet homme va s'exécuter, va tendre sa main. Et au même moment, sa main fut guérie. Ils furent remplis de joie. C'est pas ça ? Excusez-moi. Normalement, vous avez compris, ça aurait dû être ça. Et regardez, ils furent remplis, ça c'est le cœur de l'homme, ça, pas régénéré. Ils furent remplis de colère, de fureur, je rajouterai, mêlés de jalousie, et j'en passe. Que c'est pas bon. Et même, ils vont se consulter sur ce qu'ils feraient à Jésus. On arrête là notre lecture. Nous avons lu ce texte dans l'évangile de Luc. Mais en définitive, cette histoire, cet épisode du ministère de Jésus, nous le retrouvons dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Matthieu 12, Marc chapitre 2. Et chez les trois évangélistes que je viens de citer, le paragraphe qui est là, qui est donc donné avec des détails selon Matthieu, Marc, Luc, supplémentaires, ça permet d'enrichir eh bien, cet épisode d'intervention de Christ à l'égard de cet homme, on va y revenir. Mais en définitive, peu importe ces trois paragraphes, ces trois épisodes soulignés par Matthieu, Marc et Luc, suit l'épisode des épis de blé qui vont être arrachés par les disciples le jour du sabbat. Ils ont fait ainsi parce qu'ils avaient faim. Donc les pharisiens vont reprendre les disciples de Jésus, interpeller Jésus, et poser cette question, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Jésus va leur rappeler un épisode qu'ils connaissent bien, qui est relaté dans l'Ancien Testament, concernant David et les hommes qui étaient avec lui. À un moment donné, ils ont eu faim, ils sont entrés dans le lieu saint, et ils se sont servis sur la table des pains de proposition, et ils les ont mangés. Là, ils ont fait quelque chose que normalement, ils ne devaient pas faire, parce que les pains de proposition, eh bien, devaient être, au bout de certains jours, mangés seulement par les souverains sacrificateurs. Alors Jésus les interpelle là-dessus, et il fait bien, il sait pourquoi il le fait, et en même temps, ça lui permet de dire ceci, c'est que le Fils de l'homme, lui donc Jésus, est maître même du sabbat. Alors on va essayer à comprendre par rapport à la guérison de cet homme. En définitive, ces hommes religieux, ces pharisiens, ces juifs, qui sont réunis dans cette synagogue, le sont le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi. Et quand le Seigneur va agir en faveur de cet homme, il va accomplir, c'est là le titre de mon message, il va accomplir ce que j'appellerai un miracle de rupture. Suivez bien mon raison. Un miracle de rupture. Parce que Jésus va opérer une guérison le jour du sabbat. Et il va opérer cette guérison, c'est pas un hasard. Hein. Je ne cesserai jamais de dire que le timing de Dieu est parfait. Ne voyons pas du hasard avec Dieu, ça n'existe pas avec Dieu. Tout est calculé, tout est arrêté, tout est noté, c'est parfait. L'horloge de Dieu fonctionne bien. Donc ce jour-là, il va opérer cette guérison. C'est un miracle de rupture, car la guérison ce jour-là, ce samedi-là, dans la synagogue, va rompre quelque chose. Elle va rompre, non pas avec Moïse et les prophètes, mais elle va rompre avec la doctrine du sabbat et toute la théologie des pharisiens et des scribes. Jésus n'a pas enfreint le sabbat, Jésus a accompli le sabbat, mais d'une manière différente. Parce que, en définitive, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Si ce n'est d'enfreindre l'interprétation extrémiste, oui, de cette institution du sabbat. Parce que quand Dieu a institué cette règle, ce repos pour Israël, il l'a institué pour que ce jour-là soit un jour de bénédiction. Pas un jour religieux, de tradition religieuse, qui à la longue devienne lourde, pesante, qui ne produit plus rien. Non, le Seigneur est en train de les amener sur un autre terrain. Il est en train de les amener sur le terrain de la nouvelle alliance, sur le terrain de la grâce. Pour les croyants chrétiens nés de nouveau et même pour des juifs qui sont devenus des juifs messianiques, il y en a beaucoup dans nos églises, Le jour du rassemblement, c'est le dimanche. Le dimanche n'est pas le septième jour de la semaine, c'est le premier jour. Il y a dans notre société cette manière de penser, de dire que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Faites un micro-trottoir et vous allez voir. Pour vous, monsieur, pour vous, madame, quel est le dernier jour de la semaine? Et la grande majorité vont vous dire dimanche. Et c'est complètement faux. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Pour les hommes, c'est le dernier, parce que c'est plus du tout important, ce jour-là, qu'est le rassemblement des croyants, des chrétiens, qu'on appelle ainsi le jour du Seigneur. Oui. Le mettre en premier, ça veut dire que Dieu est en premier. Et le jour du sabbat, quelque part, nous sommes rentrés dans un autre jour de sabbat. Parce que dans ce jour-là, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain, mais c'est aussi après-demain. C'est le jour de repos par excellence. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Vous qui êtes chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos du cœur, le repos de l'âme, le repos de mon être tout entier, le repos dans la guérison, le repos dans la bénédiction, le repos de Dieu. Alors donc le Seigneur va battre en brèche leur type de piété et leur conception du salut. Parce que, après tout, j'ai souligné, parce que c'est noté dans le contexte, l'histoire de David avec ses hommes. Mais en même temps, si vous lisez, et c'est pour ça que j'ai parlé de Matthieu et de Marc, qui relatent le même épisode, le même miracle, la même intervention de Jésus, mais avec un détail supplémentaire. Par exemple, Matthieu, lui, il va noter ceci, il a entendu Jésus dire ceci, ça l'a marqué, donc il le répercute dans son évangile, et il va dire, mais lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Quelle bonne question, il les a mis mal à l'aise. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Un bœuf, une brebis, quel que soit l'animal, c'était quand même la richesse de ces hommes et de ces femmes à l'époque. C'était de l'argent à venir, pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille. Plus on avait de bêtes, plus on était riche. C'était la mentalité de l'époque. La réalité de la manière de vivre de l'époque. Et Jésus de leur dire, mais combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Pourtant, pour eux, une brebis, ça vaut cher, je viens de le dire. Ça a une valeur. Mais un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Ne vaut-il pas plus qu'un bœuf? Ne vaut-il pas plus que tout ce que vous possédez matériellement? Et si cet aspect matériel du Jésus, vous le perdez, si jamais, eh bien, il y a là un problème, le jour du sabbat, Jésus dit, je paraphrase, je suis convaincu que vous allez, malgré tout, malgré le sabbat, aller chercher ce bien matériel. Vous allez tout faire pour le secourir, vous allez faire l'effort qu'il faut faire, alors que c'est le sabbat. Et vous êtes prêt à le faire pour une brebis? Et vous êtes en train de m'accuser parce que je veux faire du bien à un homme le jour du sabbat? Ça, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. Ou le cœur de l'homme qui ne comprend pas la conception du salut. Jésus est au milieu d'eux, il est un exemple, il est le Fils de Dieu, il est Dieu au milieu de la terre. Et il va donc ainsi dans cette synagogue, dans ce lieu de culte. Il va venir se placer là, enseigner et manifester la réalité de ce qu'il est, de ce qu'est Dieu en définitive. Finalement, il va manifester, parce qu'il en est animé, des sentiments d'amour, des sentiments de compassion, des sentiments de miséricorde. Il va secourir et il va le faire. Et il le fait encore aujourd'hui pour toute personne qui s'attend à lui et qui veut vraiment s'en sortir. J'insiste, qui s'attend à lui, Pas quelqu'un d'autre, hein, pas n'importe quoi, qui s'attend à lui, à Jésus. Et attention, j'ai dit, et c'est pour ça qu'il faut bien écouter les messages, et qui veut vraiment s'en sortir. J'ai bien dit, et qui veut vraiment, parce que vous avez des personnes qui ne veulent pas. Ils sont bien comme ils sont, hein. J'ai mon petit culte, j'ai ma petite réunion de temps en temps, du moment qu'on ne me casse pas trop les pieds, que le pasteur ne vienne pas trop me bousculer, parce que celui-ci là qui est arrivé me bouscule un peu trop. Bref, ça je l'ai déjà entendu, pas ici. Quoique. C'est pas grave. Ça ne m'arrête pas. Vous pouvez toujours dire ce que vous voulez. Je suis un têtu. Hein. Vous ne me connaissez pas encore. Surtout quand je sais ce que Dieu me demande de faire. Parce que vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Celui qui s'attend à Jésus et qui veut vraiment s'en sortir. La question qui se pose encore aujourd'hui à quiconque, et je le disais hier pendant le mariage, quiconque, c'est tous ceux qui sont là. Arabes, Français, Chinois, ce que vous voulez. Voulez-vous, je vous pose la question, hein. Voulez-vous, aujourd'hui, je ne vous parle pas de demain, ça, demain n'est pas encore, hein. Hier c'est terminé, voulez-vous vraiment, aujourd'hui, vous en sortir? Vous répondez dans votre cœur devant Dieu. Voulez-vous vraiment plaire à Dieu? Voulez-vous vraiment lui être fidèle? Voulez-vous vraiment marcher à sa suite, quoi qu'il en coûte? Il y a une parole d'un homme, de Dieu, qui a marqué son époque. Et cet homme a été le fondateur de l'armée du salut. L'armée du salut, au départ, était une église, une œuvre chrétienne, qui était vivante, remplie de l'esprit. Avec le temps, malheureusement, ça s'est un petit peu éteint. Que Dieu fasse que ça reprenne force et vie. Mais au départ, ce fondateur qui se prénommait William Booth faisait monter continuellement cette prière devant Dieu et disait à Dieu, « Seigneur, fais de moi ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Et je souhaite que chacun d'entre vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement un homme de Dieu, serviteur, pasteur, qui doit faire monter cette prière, parce que personnellement je le fais. Fais de moi ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Ça fait 25 ans qu'il le fait. Et qu'il le fasse autant de temps qu'il le voudra, tant qu'il me donne le souffle de vie. Mais vous aussi, ça vous concerne. Faites-vous monter vers Dieu cette prière, ça rejoint les questions que je viens de poser à l'instant. Faites-vous monter vers Dieu cette prière, de dire « Seigneur, fais de moi ce que tu veux ». Pas mal déjà. Quand tu veux, on monte un cran là. Et surtout, où tu veux, alors là c'est le sommet là. J'ai appris une chose avec le Seigneur. Il faut lui dire jamais, jamais. Vous m'avez suivi ? Il ne faut lui dire jamais, virgule, jamais. Ma femme, il y a quelques années de cela, alors qu'on était dans le ministère, déjà tout jeune, etc., on commençait dans le ministère, et elle me disait toujours, jamais, mais jamais, vraiment jamais, Laurent, jamais Marseille. Et on y est allé. Et en plus, c'est l'église où on est resté le plus longtemps. Où est passée ma femme? Je croyais que tu étais parti à Marseille. Ne lui disons jamais, jamais. Et là, j'entends quelques-uns qui disent, ah ben alors je vais lui dire Marseille. Pourquoi pas, si c'est la volonté de Dieu. Groyer ! C'est où Groyer ? Si c'est la volonté de Dieu. Il y a un frère hier, il me disait, ça fait 50 ans que je suis agroyé. Alléluia. Pourquoi pas? Donc, les questions sont posées. Nous allons revenir sur ce récit dans quelques minutes. Mais notons cet exemple de l'Ancien Testament dans le livre du Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5, le début du verset. Il est écrit ceci, « Qui est celle ?» Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Pour le chrétien, pour celui qui est converti, pour celui qui est né de nouveau, le monde est un désert aride. Ben, je ne sais pas, moi, je vois ça. Hein. Et nous le traversons, parce que nous sommes, dit la Bible, des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Et nous traversons ce désert dans la mesure où nous nous appuyons sur le Seigneur Jésus. Il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire. C'est de répéter la même erreur que le peuple d'Israël, je parle de la première génération, qui est dans le désert, suite à la sortie de l'esclavage de l'Égypte. Parce que, au début, ils se sont appuyés sur le Seigneur. Mais avec le temps, petit à petit, ils ne s'appuyaient plus vraiment sur le Seigneur. Ils s'en prenaient à Moïse. Ils murmuraient. Ils se plaignaient devant Dieu, alors que Dieu les nourrissait, que Dieu veillait à ce que leurs vêtements ne s'usent pas. Veillez à ce que leurs pieds ne s'enflent pas, malgré la marche. Veillez sur eux, même la nuit, parce que dans le désert, il y a des bêtes sauvages, très dangereuses. Et avec la colonne de feu qui représentait la présence de Dieu, le jour c'était la colonne de nuée. Donc la colonne de feu la nuit, elle éclairait le camp, et en même temps elle protégeait le camp contre les bêtes sauvages. Dieu pourvoyait à leurs besoins, Dieu les protégeait, Dieu les gardait, Dieu était présent, Dieu était visible, la colonne, Dieu était visible, Dieu faisait éclater sa gloire, et malgré tout, à un moment, et cela est rappelé dans le livre des Psaumes, à un moment donné, hop, il se détournait de Dieu, à un moment donné, hop, il ne s'appuyait plus sur Dieu, et puis ça a continué dans toute l'histoire d'Israël, ainsi de suite, régulièrement. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancienne Alliance l'a été pour notre instruction. Afin que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Mais je remarque une chose, c'est que nous recommençons très souvent les mêmes erreurs. On est des têtus. On a du mal à comprendre, on a du mal à accepter. On a du mal à accepter la démarche que Dieu veut nous voir faire. Nous appuyer sur lui, nous traversons ce monde, nous traversons ce désert. Mais nous allons le traverser jusqu'au bout si nous nous appuyons sur lui. En fait, que nous le voulions ou non, mes frères et sœurs, nous nous appuyons toujours sur quelque chose. Mais attention, la Bible nous met en garde contre les faux appuis. La Bible nous met en garde contre les faux amis. Dans le psaume 20, verset 8, le psalmiste va dire « Ceux-ci, ils s'appuient sur leur char ». Ceux-là, ils s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout, car cela a été souligné, parce que nous nous appuyons sur le Seigneur. La société moderne compte énormément, vous l'avez remarqué, sur la force physique. Qu'elle soit militaire, c'est celui qui montrera son arsenal comme étant le plus important que l'autre pour impressionner. Moi, j'appelle ça toujours comme ça existait dans les années 60, la guerre froide. Elle existe actuellement. Hein. La force physique, la force militaire, la force musculaire. Oh. C'est une mode, ça. Hein. Ils ont gonflé. Hein, boum, baf. tiennent pas debout. Le croyant, lui, il n'a pas besoin de gonflettes musculaires ou je ne sais quoi encore. Il a besoin de s'appuyer sur le nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul va le souligner, Colossiens chapitre 2, verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant, le mot revient, sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » C'est ce que le Seigneur est en train de dénoncer dans la synagogue. 1 Samuel chapitre 30, verset 6, encore un épisode difficile, mais à la fois miraculeux et merveilleux pour David, c'est que David fut dans une grande angoisse parce que les Amalécites sont passés par là, les ennemis, ils ont emporté les femmes, les enfants, ils ont pillé Siclag, cette ville qui était parmi les Philistins. David est en train de fuir comme il peut Saül, et là il revient d'une campagne, d'une guerre, et avec ses hommes de main, avec ses hommes de guerre, il trouve la ville dévastée, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus les femmes. Alors, il est dans une grande angoisse parce que les hommes qui étaient là parlaient de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles, de ses filles, de ses fils et de ses filles, etc., comme je viens de le dire. Mais il est écrit, mais David reprit courage en s'appuyant, on retrouve le mot, en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et si je prends l'exemple de Jacob, qui selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 21, lui qui va bénir chacun de ses enfants, 12, qui vont composer, eh bien, les tribus d'Israël, nous nous rendons compte que Jacob va adorer Dieu en s'appuyant sur l'extrémité, en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Et ce bâton peut à nos yeux, ce matin, représenter la croix, où le Sauveur, le Seigneur Jésus, a été crucifié. Et c'est là que je vais, mes frères et sœurs, ça a été rappelé ce matin par la Sainte Cène, c'est là que je vais mettre toute ma confiance. Par rapport au combat de la vie, par rapport aux tempêtes de la vie, par rapport aux oppositions spirituelles, aux combats spirituels, j'aimerais attirer votre attention, c'est pas mon sujet, parce que le thème du combat spirituel, c'est un thème, quand je le développerai, qui va nous amener sur plusieurs réunions. Mais je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est pas un parcours facile. Mais avec Dieu, je ferai des exploits. J'ai bien dit avec Dieu. En m'appuyant sur Dieu, en m'appuyant de ce qui découle de la croix, de ce qui vient de Jésus-Christ, alléluia, de ce qui découle de l'œuvre accomplie à la croix. Et ça, c'est formidable, m'appuyer avec confiance par rapport au combat de la vie sur l'œuvre accomplie, le tout accompli. Parce que la croix, elle est synonyme de mort, mais elle a été suivie d'une magnifique résurrection. Un chrétien n'est pas quelqu'un de mort. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit. Et cette vie, elle se ressent. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus doit ressentir que j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, sa capacité, comme dit un chant. Amen. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu comme Sauveur, Seigneur, comme Maître, comme celui à qui je dois obéir, il n'a pas la vie. Oh, il vit physiquement, je suis là, je me remue, je mange, je bois, je m'occupe de mes affaires. Oui, je vis physiquement, je suis là, en chair et en os, comme je le disais hier. Ça, ce sont les apparences, je me vois, vous vous voyez, quand vous regardez dans votre glace, votre personne, vous dites, waouh. Je me vois. Ou je fais, oh, je me vois. Mais ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est ce que je disais hier. C'est l'intérieur. C'est mon cœur. Le psaume 46, verset 2 nous dit, Dieu est pour nous un refuge. Et on revient avec le mot. Et un appui. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cet homme de la synagogue il est là. Adverbe de lieu. Il est là. Là. Il est réellement là. Il est là avec son corps, avec son âme et avec son esprit. Il est là. Je suis convaincu que cet homme, s'il est dans la synagogue, c'est pas seulement pour suivre un rite religieux. C'est parce que j'en suis convaincu, sinon le Seigneur n'aurait pas agi ainsi. Cet homme, je suis convaincu, c'est pas dit, hein, mais permettez-moi de le croire, je suis convaincu qu'en amont, à la base, cet homme a la foi. Il s'attend à Dieu. Au-delà du rite du sabbat, au-delà de cette pratique du sabbat, au-delà de ce rassemblement le jour du sabbat, le samedi dans cette synagogue, au-delà de tout cela, de tout ce qui est purement religieux, cet homme, il est là en se disant, aujourd'hui, Dieu va me visiter, Dieu va me relever, Dieu va me guérir. Et quand je dis que cet homme est là, ça va dans ce sens-là, adverbe de lieu, je suis là. Là pour quoi faire ce matin, je suis là pour quoi faire à chaque réunion, je suis là pour passer du temps, ou si je vois l'horloge un peu tourner trop vite, dire oh là là, je vais rater ceci, je vais rater cela, arrêtez, parce que Dieu ce matin, il peut nous pousser à vivre des prolongations. Alors après si vous voulez rentrer à la maison, rentrez à la maison, mais moi j'y rentrerai pas. C'est pas parce que je suis pasteur, mais même si j'étais dans les rangs, qu'il y a un collègue qui prêche, et que Dieu veut faire des prolongations, ben je dis, vas-y Seigneur, prends les choses en main, vas-y. Nous on note, vous savez, c'est comme ça, c'est normal, on note, le culte commence à 10h, il finit à 11h30, ça me casse les pieds. Je vous le dis franchement, hein. Parce que ça me rappelle ma religion, où c'était chronométré, alors, presque un chronomètre à la main, vous savez, comme les... Tac, au revoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter un certain timing, mais si, j'ai bien dit si, c'est déjà arrivé, moi j'ai déjà vécu ça. Non seulement en tant que pasteur, mais aussi en tant qu'auditeur, dans des rassemblements, dans des tas d'occasions. Le Saint-Esprit visitant, moi je prie pour qu'il nous visite. Et vous savez ce qui bloque le Saint-Esprit? C'est justement cela. Je suis là sans être vraiment là. C'est-à-dire, je suis là parce que c'est dimanche matin, mais vite fait que ça se termine parce que je vais aller manger. Ça, les Français, ils n'oublient pas. Hein. Acheter la baguette, boum. Chérie, c'est la baguette. Oui, pas la baguette. Hein. Par contre, ils oublient la Bible. C'est important. Le Saint-Esprit veut nous visiter. Cet homme, il s'attend à recevoir quelque chose de Dieu. Il n'est pas comme les autres. Et en plus, il souffre. Il est là pour être secouru, pour être guéri, en l'occurrence de cette main droite qui est sèche. Alors la main sèche de cet homme, elle nous amène à une application spirituelle. En définitive, la main sèche, littéralement, ça veut dire que cet homme était atteint d'une raideur à la main. Il n'avait pas une main, vous savez, toute flétrie. Ça veut dire une raideur, une impossibilité de se servir de sa main. Une main sèche, c'est une main morte. C'est-à-dire que dans cette main, il n'y avait plus de circulation sanguine. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. Impossible de l'utiliser, certainement raide. Crispé, plus de force, fragile, sans vie, sans utilité, plus aucune. Alors il aurait pu se consoler en disant « j'ai encore la main gauche ». Mes frères et sœurs, attention de ne pas limiter Dieu. En tombant dans le même piège en disant « il me reste encore ». Le Seigneur ne m'a pas donné qu'une main, il m'en a donné deux. S'il avait voulu que je serve avec une main, il m'aurait créé qu'avec une main. Il m'a donné deux mains. Et vous remarquerez que beaucoup de choses avec Dieu dans la création de Dieu, pour nous déjà, en tant qu'homme, ça marche souvent par deux. Deux narines. Deux yeux. Vous vous rendez compte, un cyclope, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est de la mythologie. Deux yeux. Deux oreilles. Deux bras. Deux mains. Bref. Le Seigneur nous a créés de la bonne manière. Alléluia. Et il veut que nous comprenions que s'il nous manque quelque chose, si qu'il y a quelque chose dans notre vie spirituelle, je reviens sur l'aspect spirituel, il y a quelque chose dans notre vie spirituelle qui ne fonctionne plus. Ou qui ne fonctionne pas. Le Seigneur veut que je sois là, non pas un consommateur de messages, non pas un religieux évangélique, non pas un religieux, j'emploie le mot, pentecôtiste, mais comme quelqu'un qui va dire au Seigneur, fais ton œuvre. Je veux pas être à moitié, je veux pas qu'il y ait qu'une partie, je veux qu'il y ait tout pour toi. Seigneur, tu prends tout. Et cet homme, donc, a une main morte. Il n'y a plus d'action, plus de service rendu, plus rien accompli. Et malheureusement, j'insiste, parfois, il y a des croyants qui sont dans ce cadre-là. Sur le plan spirituel, combien aujourd'hui sont avec des mains mortes? Qui ne sont plus dans l'activité spirituelle, réellement? Qui sont devenus inertes? Qui sont devenus languissants? Etc. Mais ce matin, vous êtes là. Je vous demande pas de regarder à celui qui n'est pas là. Je vous demande, et le Seigneur vous demande de regarder à vous qui êtes là. Ici, comme cet homme. Et chose formidable, c'est que Jésus est également là. Alléluia! Il est là. Il a dit que là où deux ou trois seraient rassemblés en son nom, il a dit ceci, je serai au milieu d'eux. Il est là, dans ce lieu de culte. Et on saurait même que tous les trois, ils seraient là. J'ai fait des réunions avec trois grands-mères, dans les Cévennes, il y a des années de cela. Mon pasteur me disait, va dans les Cévennes. Et j'y allais avec ma Bible. Je faisais 70 kilomètres, Montpellier-le-Vigan. En allant sur le Mont-Aigoual. Et là, je faisais une petite réunion de 3-4 grands-mères. Mes amis, elles avaient 80, 90 ans. Bah, la pêche qu'elles avaient oh. Ah, je me régalais oh. Alors, il y a des gens, Laurent, c'est pas trop dur au Vigan? Si tu savais. Quand je suis dans ton église, ils dorment tous là-bas, je me régale, c'est le réveil. Elles étaient pleines de force. Il y a un frère, c'est hier, que je discutais, de Mazamé, il me disait, j'assure des réunions à Mazamé pour aider Jérôme, le pasteur Jérôme Cavaillé. Il me disait, mais il y a quelques grand-mères, mais elles sont formidables. Je bénis Dieu pour les grand-mères. Où sont les grand-mères? Bon, parfois, il y a des grand-mères qui ont des mains mortes, hein, c'est dommage. Mais moi, je vous parle de grand-mères qui avaient des mains vivantes. La vie passait, spirituellement, ça passait. Je vivais avec mon ministère là, avec dans cette ville du Vigan, quatre grand-mères. C'était le vendredi après-midi, la réunion. On se souvient encore. Mais il y avait une présence de Dieu. Parfois, vous avez des églises, ils sont 1500, mais on se demande où est le Seigneur. Parce que c'est pas le nombre, mais c'est la présence du Seigneur qui fait quelque chose. Et c'est le fait que je sois là aussi. Là, ici, Jésus est présent pour changer ma situation. Je repose la question, le voulez-vous? Dieu fixe des rendez-vous, il n'y a pas de hasard, j'insiste. Je prends un exemple pour aller un peu plus loin et ainsi augmenter notre réflexion spirituelle. Quand je prends le livre des Actes des Apôtres, avec l'aide du Saint-Esprit, Au chapitre 3, quel beau texte, je m'en lasse pas de le lire et de le relire et de reprêcher, de prêcher là-dessus. Acte 3, verset 1er et les versets qui suivent, Pierre et Jean vont monter au temple, c'est l'heure de la prière, bien sûr, et puis quand ils vont entrer dans le temple, il y avait là un homme qui demandait l'aumône, et cet homme, il a vu Pierre, il a vu Jean, qui allait y entrer, il va leur demander l'aumône. Quelques pièces, monsieur. Mais Pierre, de même que Jean, vont fixer les yeux sur lui. Et ils vont lui dire, « Homme, regarde-nous. Ne regarde pas ce que l'on pourrait te donner en argent, en matériel. Parce que si je te donne de l'argent et quelque chose de matériel, comme le font les autres, qui eux sont morts spirituellement, nous, on te demande de nous regarder, parce que ce que l'on va te donner, c'est pas du matériel. Si on te le donnait ce matériel, cet argent, tu resterais tel que tu es, mort spirituellement, dans l'impossibilité d'entrer dans le temple, d'impossibilité de louer Dieu, dans l'impossibilité de vivre de la vie de Dieu. Mais là, regarde-nous, on n'a pas de l'or, on n'a pas de l'argent, on n'a pas beaucoup de richesses, mais ce que nous avons, on te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi, lève-toi et marche. Amen. C'est pas lève-toi. C'est lève-toi. Le Seigneur t'appelle, il est là, il est présent, là où deux ou trois, Pierre et Jean disent, lève-toi, maintenant Jésus, la véritable richesse, elle va rentrer en toi, elle va se manifester en toi, cette richesse, en lui et en lui seul. Et tu vas trouver la force, la vie, la guérison, la possibilité de le servir. Et cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. D'accord? Jésus a dit en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le miracle est instantané. L'infirmité est chassée, les forces reviennent et passent dans ses membres, qui deviennent fermes, nous dit l'Écriture. Il peut se tenir debout, il peut marcher, il rentre enfin dans le temple pour sauter de joie, pour louer Dieu. Amen. Ce n'est plus quelqu'un qui a une main morte, c'est quelqu'un qui a une main vivante. Il est guéri entièrement. Il se met à servir. C'est ça, la main. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ! Avec la force que Dieu va te donner. Tout son être est libéré, son corps, son âme, son esprit, sauvé, guéri pour servir. Et je reviens sur cet homme avant de terminer. Dans la synagogue. Tout comme Jésus a été seul à parler, il sera le seul à agir. Étends ta main, dit-il à l'homme. Et Jésus, de la même manière, il va inviter cet homme dans la synagogue à se lever. Lève-toi. Lève-toi et tiens-toi debout au milieu de tous ces hommes religieux. Oh, Seigneur, je peux pas, j'ose pas, c'est, ça se fait pas. Non, non, on attend, hein, tout à l'heure, quand il n'y aura plus personne, je peux me lever si tu veux. Non! 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 Qu'ils se rendent compte que ce jour-là n'est pas un jour de religiosité, mais c'est un jour de vie. Qu'ils se rendent compte que c'est pas un jour où un d'être consterné religieusement, là, plaqué intérieurement, et ne plus arriver à marcher, à servir, mais qu'ils se rendent compte que ce jour, c'est un jour où tu vas te lever et être guéri pour servir le Seigneur. Lève-toi, là, au milieu. Le Seigneur est là, êtes-vous là? Le Seigneur vous dit, lève-toi, arrête de rester assis, arrête de rester figé, arrête de vivre continuellement dans le passé, arrête! Parce que ça déshonore le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de faire entrer l'église de Groyer dans un avenir béni. Arrête de te complaire dans le passé. Arrête de ruminer le passé. Arrête de te laisser plaquer spirituellement par ce qui entraîne plus la mort que la vie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi. Tiens-toi debout. Pour que tous soient témoins de la grâce qui va t'être accordée. Et quand il le fait, cet homme, la main, elle se dénoue, elle est guérie. L'homme a été guéri en faisant un geste tout simple sur l'ordre de Jésus. Il a cru suffisamment en Jésus pour commencer ce geste qui était impossible. Il n'avait rien demandé, mais il a suivi sans réticence l'initiative de Jésus, du Fils de Dieu, tout seul devant la foule. Il a fait confiance à Jésus. Il va pouvoir réutiliser sa main pour servir. J'insiste, pardonnez, serons-nous à notre tour, serons-nous ce matin, aujourd'hui, dimanche 29 octobre, dernier dimanche du mois d'octobre, serons-nous à notre tour sur la parole de Jésus, déplier notre main, déplier du moins eh bien, notre être, le déplier en nous approchant, en nous ouvrant, en nous tenant devant lui, en disant « Seigneur, prends ma vie ». Sers-toi de moi. J'aime ce chant. Que tout ce qui est en moi soit à toi. Quel bel acte de foi. Serons-nous faire de toutes nos paralysies un bel acte de foi pour que la paralysie s'en aille et que ça touche les âmes qui viennent, qui nous entourent, qui nous voient vivre pour un seul but, servir Dieu au sein de ce monde et de l'Église et être utile, être des instruments de bénédiction, être des instruments de réveil, être des instruments entre les mains de Dieu qui nous dit « Maintenant, je veux faire de toi un pécheur d'homme, alléluia, je veux faire de toi quelqu'un qui va entrer dans le miracle de Dieu pour ton Église, ta famille, déjà pour toi-même, parce que ça commence par nous. » Que ceux et celles qui sont encore avec quelque chose de paralysé, sans vie, ce matin, je le souhaite, puissent voir leur être tout entier être guéri et servir Jésus. Et si je voulais aller plus loin dans ma conclusion, je pourrais juste citer très rapidement, et vous le notez, la guérison d'aîné. Ah, dans le livre des Actes, au chapitre 9, il était couché sur un lit depuis 8 ans et il était paralytique. Et Pierre, comme Pierre et Jean, comme il l'avait fait avec Jean, comme Jésus dans la synagogue, comme ça va se répéter à plusieurs reprises, il va dire à Aîné, 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 Jésus-Christ te guérit. Et lui dit, il te guérit, reste couché. Repose-toi encore, vas-y, fais la grâce. Il n'y a pas de problème. T'as guéri, reste couché. Et non. Aîné, Jésus-Christ te guérit, tu es paralysé, oui, mais il te guérit. Donc lève-toi. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme, il n'attend pas qu'il y ait quelqu'un qui bouscule le lit, qui... Non, il fait l'acte. Moi, je peux pas le faire à votre place. Jésus peut pas le faire à votre place. Il vous tend la main pour vous guérir. Mais enlevez la paralysie qui vous tient. Il va pas vous bousculer, il va pas vous renverser. Il est amour. Il est plein de prévenance. Il a dû savoir vivre, le Seigneur Jésus. Il est poli. Mais il vous dit, à la place d'aîné, vous mettez votre prénom. Lève-toi. Il marche. Recommence. Vas-y. Mais vous savez, quand on y a goûté, après, on a envie que ça continue. On est là. On est là, on dit, Seigneur, oui, je veux aller plus loin. Je veux faire un pas de plus. Aîné, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les habitants de l'Ide et du Saron, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont comme le boiteux. Si vous lisez la suite, vous verrez, il va y avoir des choses extraordinaires qui se passent. Comme l'homme à la main sèche. Comme chaque fois les autres voient. Et c'est ce que je vous disais par rapport au mariage d'hier, les gens ont vu. Ils ont entendu, mais ils ont vu. Alors, ils ont vu mes collègues qui m'ont aidé. Ils m'ont vu moi-même prêcher la parole. Ils ont vu Onésime et Mélanie. Ils vous ont vu, pour vous qui étiez là, ils ont vu. Ils veulent voir. Aîné qui est couché, paralysé, révèle les grands besoins de notre société à tous les niveaux. Nous sommes face à des gens qui sont couchés, paralysés, tant au niveau physique, moral et spirituel. Mais mes frères et sœurs, si le monde est couché, paralysé, c'est le constat. Mais si nous, les chrétiens, on est aussi couchés, paralysés, mon Dieu, quelle catastrophe! Mais on ne l'est plus, on ne veut plus l'être, on veut faire un pas en avant. Que Dieu nous aide à aller plus loin. Il y a une grande urgence à remettre peut-être de l'ordre, à arranger notre vie, à changer d'habitude, de pensée, voire de se repentir. On peut être paralysé par les habitudes, paralysé par les échecs, paralysé par les déceptions, paralysé par les amertumes. On peut être paralysé par des jalousies, on peut être paralysé à cause des calomnies, des médisances, du mensonge. On peut être paralysé donc en un seul mot par le péché. On peut être couché par résignation, abandon. Laissez-vous toucher par Jésus afin de vivre un service joyeux et fructueux. Le réveil de notre ville de Groyer, le réveil de ce secteur, le réveil de notre pays, de nos familles, passe certainement par la guérison des croyants ou non, paralysés et spirituellement couchés sur certains lits. Je crois que le Seigneur cherche aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont peut-être là avec une main sèche, boiteux, paralysés, mais qui disent aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, ici comme ailleurs, je veux me lever par la foi, là, ici, répondant à l'invitation de Jésus. Amen. Alors on va prier. Pas compliqué. Et je lance un appel. Ça vous gêne que je lance un appel ? Non, hein ? Je vous lance un appel de la part du Seigneur. Ça ne sera pas long. Je vais vous demander, comme je le fais habituellement, assez régulièrement, c'est que si vous voulez répondre à cet appel, vous allez à ce moment-là vous lever à votre place, vous restez à votre place, parce qu'après tout, je pourrais vous demander de vous approcher, je prierai pour vous, ça va prendre un certain temps. Là, ça va nous permettre de gagner un peu de temps, mais en même temps, on ne va pas passer à côté de ce temps où le Seigneur vous appelle. Et puis après tout, le Seigneur vous voit. C'est pas moi qui vais faire l'œuvre, c'est lui. Moi, je n'ai fait que prêcher, qu'il m'a demandé de prêcher, de vous apporter, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, nous sommes en prière, dans le recueillement. Et ceux qui désirent, ce matin, répondre à l'appel du Seigneur par rapport à ce qui a été prêché, je vous invite à vous lever à votre place. Je crois que j'ai prêché clairement, simplement. C'était « on ne peut plus clair ». Et il y a peut-être quelque chose, vous savez, c'est peut-être pas une grosse situation, un gros problème, c'est peut-être même une petite chose qui me bloque. Mais encore faut-il que je la reconnaisse, il ne faut pas que je sois dans le déni spirituel. Il y a des gens qui sont dans le déni. Ils se disent « oh, tout va bien ». Je vous ai dit tout à l'heure, ils pouvaient dire « j'ai encore la main gauche ». Non, le Seigneur veut lui donner les deux mains. Et vous pouvez dire « j'ai encore ceci, j'ai encore cela, ça va, bon, j'ai pas besoin de me lever ». Je ne fais pas ça pour vous obliger à vous lever, mais je vous interpelle, parce que vous avez peut-être besoin de dire « oui, effectivement, j'ai encore ça, mais j'ai peut-être perdu cela et je voudrais le retrouver ». Pour être encore plus à la brèche, pour être encore plus utile entre les mains de Dieu, plus utile pour mon Église, plus utile pour Groyer, plus utile pour mon pays, la France, plus utile. Et je m'adresse aux personnes âgées comme aux jeunes. Hein. Le Seigneur ne fait aucune différence. Donc, si c'est là votre désir, dire « Seigneur, oui, effectivement, là ça bloque, là je suis paralysé, là j'avance pas, là je sens que ça bloque, là j'arrive plus à prier comme avant, j'arrive plus à te louer comme avant, j'arrive plus, bref, tellement de choses qui peuvent être diagnostiquées personnellement. Je voudrais donc vous inviter à vous lever simplement et à recevoir la bénédiction de Dieu. Le boiteux s'est levé, l'homme à la main sèche s'est levé, il a répondu à Jésus. Aîné s'est levé, répondant au Seigneur par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. Donc, ce matin, vous pouvez vous lever. et recevoir. Et être, eh bien, dans la totalité de ce que Dieu veut vous donner. Alléluia. Ça me fait penser également à l'homme qui avait reçu un talent. Il a dit, hop, je vais le mettre en terre et je lui rendrai. Je suis pas un voleur, je lui rendrai. Oui, mais le Seigneur, le maître, va lui faire un reproche. Il lui a dit, ce talent, tu aurais quand même dû le faire fructifier. Tu l'as enfoui, tu l'as caché, tu me le donnes. C'est bien, tu n'es pas un voleur, mais en définitive, tu es passé à côté de ce que je te demandais de vivre. Et le Seigneur veut pas que l'on passe à côté, mes frères et sœurs. Vous aurez beau lui dire dans votre prière, Seigneur, j'ai quand même fait ça, Seigneur, j'ai quand même encore ça, Seigneur ceci, Seigneur cela. Le Seigneur te dit, non, tu peux recevoir plus, je t'invite à recevoir plus, sors de cette petite paralysie, reçois, rentre dans la bénédiction de Dieu, et tu vas être une riche bénédiction pour les autres. Personnellement, si j'étais assis, je me serais levé. Ça vous choque? Je me serais levé, en tant que pasteur, parce que je sais très bien que je peux faire encore plus et encore mieux. Mais pour ce faire, j'ai besoin de tout ce qui vient du Seigneur, dans mon service. Et je souhaite vraiment que vous qui servez le Seigneur, vous le serviez différemment. Parce que vous avez beaucoup à apprendre. Autant que moi, j'ai beaucoup à apprendre. Vous avez beaucoup de progrès à faire. Je commence à vous connaître. Autant que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Et moi, je veux les faire. Alors je suis debout avec vous. Je me serais levé. Seigneur, et je vais prier pour vous, mais en même temps, je prie pour moi. Seigneur, je te bénis, parce que ton esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans le cœur de ceux qui sont debout. L'homme s'est levé, ces hommes se sont levés. Ils ont répondu à ton appel. Seigneur, tu honores leur foi. Tu as honoré la foi de l'homme à la main sèche, il a été guéri. L'homme boiteux à la porte appelé la belle du temple, il a été guéri. L'homme qui s'appelle aîné, il a été guéri. Même la belle-mère de Pierre, qui était atteinte d'une fièvre et qui était à la mort, tu as posé ta main sur elle, elle a été guérie, elle s'est levée, elle s'est mise à servir. Seigneur, tu lèves, tu relèves, tu aides, et Seigneur, tu combles ce qui a besoin de l'aide, tu enlèves les paralysies, tu enlèves toutes les fièvres qui tiennent couchées, tu enlèves ce qui paralyse, ce qui fige, et tu permets que ceux qui sont là, qui ont déjà beaucoup reçu, reçoivent encore plus. Et je m'inclus, Seigneur, dans le cadre de mon ministère pastoral, avec eux, pour cette église, dans tous les endroits où je suis invité. Je veux être une source, nous voulons être une source de bénédiction. Une source de réveil pour notre ville, pour nos familles, pour notre pays de France. Seigneur, ils le réclament. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des couples et des familles, ils le réclament. Seigneur, maintenant tu agis. Et je me réjouis, parce que tu l'as fait et tu le fais encore. Mais chose extraordinaire, c'est que tu le feras encore demain. Parce qu'encore demain, dans notre temps de prière, nous irons plus loin et nous te dirons, Jésus, je me suis levé, mais maintenant je veux aller plus loin. Donne-moi de voir les fruits. Donne-moi de voir le changement. Donne-moi de voir les résultats dans mon service. La musique, l'accueil, le service d'ordre, la bibliothèque, le témoignage de ma foi, etc. Oh Jésus, tu entends leurs prières. À toi la gloire. Amen.